Bonjour à chacun. Quand Gérard a su qu'il ne pouvait pas rentrer dans les délais qui étaient prévus, il a fait prévenir dimanche dernier Jacques et moi pour savoir si l'un des deux pourrait éventuellement suppléer son absence. Et donc, comme Jacques était intervenu peu de temps auparavant et que j'avais une idée de message, je me suis dit, ben, je vais acquiescer dans ce sens. Et donc, j'ai commencé à travailler dans l'optique du message que je voulais donner, et je me suis aperçu assez rapidement que le sens dans lequel j'étais parti était un sens un peu ambitieux et que je ne serais absolument pas prêt ce dimanche. En fait, j'avais eu il y a quelques années l'occasion de découvrir quelques cantiques et les circonstances de leur création, et je voulais, et je voudrais toujours, et j'espère avoir l'occasion de partager avec vous, les circonstances de création de quelques cantiques pour les chanter ensemble d'une manière un petit peu différente. Si par exemple je vous dis que le 150 qu'on a chanté tout à l'heure sur « À toi la gloire, quel ami fidèle et tendre » a été écrit par un homme qui a eu des circonstances assez difficiles dans sa vie. En effet, il était fiancé, puis quelques jours avant que se produise le mariage, sa fiancée est morte, et qu'il s'en est jamais remis. Il a sombré dans une sorte de mélancolie, pas vraiment une dépression, il était actif, mais en même temps il n'était plus comme avant, et on peut le comprendre, ça doit être vraiment des circonstances dramatiques à traverser. Et dans cette âme sensible, il a écrit pas mal de poésie, le Seigneur l'a conduit dans ce chemin où il avait pu exprimer de cette manière-là tout un tas de choses, jusqu'à ce que, alors qu'il était au loin, sa maman tombe malade, et donc il a écrit cette poésie qu'elle a mis fidèle et tendre, parce qu'il ne pouvait pas aller, hein, on est au 19e siècle, il ne pouvait pas aller au chevet de sa maman malade. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il a écrit la chose pour elle toute seule, une lettre qui était personnelle et qui est restée cachée jusqu'à ce qu'un de ses amis tombe sur le double de cette poésie chez lui. Je ne sais pas dans quelles circonstances ce double traînait, qu'il lit cela et qu'il lui dise « Mais tu sais, tu devrais partager ce texte parce qu'il est vraiment très encourageant. » Et puis donc il l'a partagé et Sankey, un musicien très connu du 19e siècle et qui accompagnait Moody, est tombé sur cette poésie, l'a mise en musique, et c'est comme ça que nous la chantons aujourd'hui. Et pour moi, je ne sais pas pour vous, mais quand j'entends ces choses-là, je ne chante plus le chant de la même manière. Pour moi, ce chant, brutalement, il a pris vie, il a pris une tournure. Quelque part, je m'identifie à cette personne et ce qui devait être sa souffrance quand, à des milliers de kilomètres, sa maman était peut-être en train de partir. Certains mots prennent une tournure que, en chantant machinalement, il n'avait peut-être pas quelques minutes auparavant. Voilà, alors c'est un peu le sens dans lequel j'étais parti. Et puis je me suis arrêté sur un chant que j'aime beaucoup, tel que je suis. Et là, je me suis complètement arrêté, parce que les sources de ce chant étaient multiples, contradictoires. Visiblement, les choses n'étaient pas claires. Et je me suis dit, mais il faut quand même arriver à des choses un peu plus sûres pour pouvoir les énoncer du haut de la chair et ne pas dire des choses qui, peut-être parce qu'elles paraîtraient jolies, nous aideraient mieux à mieux chanter le chant, ne sont peut-être pas les bonnes. Et vous trouverez des choses comme celle-là quand vous chercherez un petit peu sur ces chants. Il y a vraiment des choses très étonnantes. Et puis alors, la chose la plus étonnante que j'ai découvert sur ce chant, c'est que c'est l'un des chants évangéliques les plus utilisés par les chrétiens évangéliques, tenez-vous bien, gays. Pourquoi ? Parce que Dieu nous accepte tels que nous sommes. Alors bien sûr, je ne vais pas faire du tout de théologie ici pour relever et dire pourquoi je ne suivrai pas sur ce chemin-là. Je pense qu'il est assez évident pour la plupart d'entre nous de nous rendre compte que ce chant ne dit pas du tout que nous devons rester tels que nous sommes. Mais en attendant, en même temps, ça m'a permis de me rendre compte que les chants, c'est quelque chose d'important, et parfois on chante des chants sans prêter attention aux paroles et comment elles peuvent être reçues. Il y a des assertions théologiques dans nos chants, et je crois que ça aussi c'est quelque chose de très important, de nous rendre compte qu'il ne faut pas toujours chanter sans percevoir cette dimension supplémentaire. Enfin bref, j'espère avoir l'occasion de revenir sur ce sujet, de la manière dont les chants ont été écrits, et que nous puissions chanter, peut-être 5-6 chants comme ça, mais les chanter en ayant toute cette profondeur derrière qui était celle de l'auteur. Alors, j'ai passé le reste de la semaine en me demandant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Parce que là, j'ai plus mon sujet. » Et puis, vraiment, je ne savais pas. Je ne savais pas jusqu'à hier, qui n'était pas une journée très facile, mais en même temps, c'était une journée où j'ai relu la lettre aux Galates. Et je me suis dit, bien, ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est justement toute cette lettre aux Galates. Alors, on ne va pas lire toute cette lettre aux Galates, bien évidemment. Mais en même temps, c'était de vous proposer une introduction à cette lettre aux Galates. Vous savez, quand on reçoit une lettre, il est très difficile de bien comprendre ce qui y est dit si on n'en est pas le destinataire final. Or, beaucoup des textes de l'Écriture sont des lettres écrites à chacun d'entre nous, mais de manière très indirecte. Parce qu'il y a des destinataires premiers. Et on parle évidemment à ces destinataires premiers. Et donc il est difficile de comprendre ce qui est parfois entendu et même parfois sous-entendu si l'on n'est pas ces destinataires premiers ou si on n'est pas éclairé sur ces destinataires-là, sur ce que il vivait, sur ce que l'auteur pouvait bien avoir à leur dire, pourquoi il les leur écrivait. Je ne sais pas si, compte tenu de l'actualité sportive, vous avez suivi l'actualité politique d'hier en parallèle, mais j'ai entendu un petit peu quelques mots d'un discours de M. Fillon, et M. Fillon a employé un mot qui a fait bondir des journalistes, alors que moi, il ne m'avait absolument pas fait bondir. En fait, par rapport au texte sur l'immigration, il disait que l'amendement qui permettrait les tests scientifiques pour retrouver la paternité de quelqu'un qui voudrait un rapprochement familial, ce n'était qu'un détail. Et pour moi, c'était évident ce qu'il disait. Effectivement, j'avais suivi un petit peu les débats autour de cela. J'avais notamment suivi les exposés des journalistes qui montraient que finalement, il y a entre 20 et 40 personnes par an seulement qui pourraient être concernées par la possibilité de faire ce type de test, ce qui est finalement très très peu. Et le débat est plus idéologique que dans ses applications concrètes, compte tenu, je répète, du nombre de personnes. En plus, il y avait beaucoup d'autres choses dans ce texte, beaucoup d'autres choses qui, à la limite, pouvaient sembler aussi, voire plus choquantes que ce seul problème-là, et sur lesquelles personne n'a insisté lourdement, en dehors des associations humanitaires qui, elles, n'ont pas eu l'écho journalistique et médiatique sur ces points-là. Mais bon, on s'est focalisé sur un seul point. Donc, mot détail, pour moi, ça passait très très bien. Jusqu'à ce que je réalise que pour certains auditeurs, le mot de détail, qui était banni, semble-t-il, du discours politique depuis une vingtaine d'années, remonte à un précédent détail, celui de M. Le Pen, par rapport aux chambres à gaz. Il avait dit que c'était un détail de l'histoire. Alors pourquoi je cite tout cela ? Simplement parce que le même mot n'a évidemment pas le même sens dans ma tête, telle que je l'avais entendue du discours de M. Fillon, et dans la tête d'autres personnes qui avaient en souvenir l'utilisation préalable du mot « détail ». Et même, peut-être plus dans le sens dans ma tête, après avoir entendu cette explication, c'est peut-être un mot malheureux, maintenant que celui qui n'a jamais dit un mot malheureux en prenant la parole en public jette la première pierre, parce que, effectivement, ce n'est pas un exercice facile, on peut comprendre que parfois certains mots malheureux puissent être utilisés. En tous les cas, c'était peut-être voulu, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que vous voyez qu'un seul mot peut prêter à débat. Et si l'on ne connaît pas le contexte, on ne comprend pas le débat. Et je crois que c'est un petit peu la même chose dans le texte biblique, non pas que ça prête toujours à débat, mais en tous les cas, si nous voulons arriver à comprendre ce que Dieu veut nous dire, alors, il est important de nous plonger dans des contextes, d'arriver à comprendre une structure argumentaire, etc. Alors, mon propos ce matin, c'est de vous aider à relire cette lettre aux Galates, peut-être d'une manière différente, pour y recevoir des choses à côté desquelles, peut-être, dans une lecture, je dirais, plus distante du texte, vous êtes passé. Alors, cette lettre aux Galates, on va d'abord en lire quelques versets, si vous le voulez bien. Je vous invite à ouvrir le texte de manière à ce que nous soyons au diapason et à l'ouvrir au chapitre 5. D'abord, on va lire quelques versets isolés, les versets 6 à 8. Je lis dans la version du Semeur. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, donc je répète Galates, chapitre 5, verset 6. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Vous couriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Et puis je saute quelques versets pour arriver au verset 13. « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. On pourrait continuer cette lecture, mais je pense que ces quelques versets sont là pour nous résumer, bien sûr tout résumé est forcément réducteur, pour nous résumer pourquoi Paul a écrit cela. En fait, il voulait défendre la vie de liberté que nous avons en Jésus-Christ par rapport à un certain nombre d'affirmations de frères, de gens qui se prétendaient des frères, venus dans l'Église. Et ces frères disaient « si vous ne respectez pas la loi, alors vous n'êtes pas chrétien ». C'est donc une lettre écrite pour défendre un certain nombre de choses. Alors on va voir un petit peu plus en détail dans un instant ce qu'il va défendre, mais peut-être avant il est important de préciser les circonstances de rédaction de cette lettre. D'abord, qui sont ces Galates ? Galates, peut-être vous ne l'avez jamais réalisé, mais c'est un nom qui est proche de notre contexte, et c'est peut-être important pour cela de le dire, mais la Galatie, historiquement, c'était un nom générique pour les Gaules. Hein, quand César fait la guerre des Gaules, il fait la guerre en Galatie, pas la Galatie du texte biblique, une autre Galatie, la nôtre, ou plus exactement, un territoire plus vaste, qui couvre non seulement la France, mais une partie de l'Allemagne et des territoires qui sont limitrophes. La zone géographique n'est pas clairement délimitée, mais je répète, plus vaste que la France. Et il n'y a pas une Gaule, comme on aimerait le croire en lisant Astérix ou d'autres sources, plus habituelles de notre littérature, mais il y a des Gaules. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de peuples d'origine celtique qui peuplent cette région et qui, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, va faire une immense migration. Alors, bien sûr, la plupart restent, mais probablement il y a des facteurs extérieurs qui les amènent à partir. Et à partir où ? Dans l'actuelle Turquie. Alors, j'ai préparé une carte, ce n'est pas très habituel, mais peut-être ça sera plus facile d'arriver à nous repérer. Vous reconnaissez sur cette carte les voyages de Paul. Et au niveau des voyages de Paul, donc, j'ai mis l'accent bien évidemment sur la région d'Asie mineure, comme on dirait aujourd'hui, qu'on a qualifié entre-temps d'Asie en tous les cas, ce qui constitue la partie orientale de la Turquie. Et Vous voyez, peut-être pas très lisible, malheureusement, je n'avais pas beaucoup de cartes à disposition, mais au moins de cartes qui puissent être projetées. Mais vous voyez peut-être vers le haut à droite, pays de la Galatie, et notamment une ville, Ancyre, qui est tout simplement Ankara aujourd'hui. Ankara était la capitale, ou l'antique Ankara était la capitale de la Galatie. En fait, ils sont venus, ces Gaulois, entre guillemets, ils sont venus dans la région et ont vécu de rapine pendant quelques décennies, jusqu'à être vaincus et fixés au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc ils vont prospérer là, et il semble qu'au premier siècle, ils parlaient encore un dialecte celtique. Simplement pour dire que leur origine est clairement établie, on sait pas mal de choses à leur égard. Il y avait trois familles, entre guillemets, tribus, si vous voulez, Galates. L'une d'entre elles, l'origine est encore plus clairement établie, elle venait de la région de la Haute-Garonne, Toulouse, si vous préférez. Donc ce sont bel et bien des gens d'origine gauloise. Sauf qu'à la fin du 1er siècle avant notre ère, donc juste avant la venue de Jésus-Christ, à l'époque de César, le dernier roi des Galates s'éteint. Ce dernier roi des Galates qui s'éteint a eu de son vivant une reconnaissance par le pouvoir politique et a obtenu un certain nombre de régions qui vont rentrer dans cette nouvelle Galatie. En fait, ce sont les zones qui sont au sud et qui vont jusqu'à la Méditerranée, qui sont nommées ici, par exemple, la Lycaonie et la Pamphylie. Ce qui fait que, à sa mort, une nouvelle province romaine naît, qui n'est plus un royaume, et qui est la Galatie. Alors, je ne sais pas si vous voyez la difficulté que je veux mettre en avant, mais simplement, quand à l'époque de Paul, on parle des Galates, on peut parler de deux zones géographiques. Soit la Galatie au sens strict, et auquel cas il s'agit de nos ancêtres, les Gaulois qui ont émigré et qui sont fixés là-bas autour d'Ankara. Soit il s'agit de la Galatie au sens romain du terme, et à ce moment-là, il s'agit de provinces beaucoup plus étendues, et plus probablement de la Galatie du sud, c'est-à-dire les zones que Paul a traversées, comme Antioche de Pisidie, Derbe, Lystre. Si vous voulez, en ce sens-là, Timothée, qui est de cette région, est un Galate. Donc on n'est pas bien sûr, et vous trouverez, quand vous regarderez les racines de ce livre, vous trouverez les deux possibilités. Chacun prend une position, soit pour l'un, soit pour l'autre. Et ça a des conséquences sur la datation du livre. Certains vont vous dire que la lettre aux Galates est la première qui ait été écrite, parce que c'est la Galatie du Sud que Paul a visitée lors de son premier et deuxième voyage missionnaire. Et comme il écrit après le deuxième voyage en Galatie, donc c'est après le deuxième voyage missionnaire. D'autres vont vous dire, pas du tout, il s'agit de la Galatie du Nord, de la Galatie historique, des Gaulois. Et donc, comme Paul il a dû y passer deux fois, qu'il n'y est pas passé pendant le premier voyage, on sait par acte 16 et par acte 18 qu'il est passé dans cette zone lors du deuxième et du troisième voyage. C'est donc bien plus tard qu'il a écrit la lettre aux Galates. Alors pourquoi je vous donne ces détails? Parce que simplement, si vous essayez de comprendre par des commentaires comment cette lettre a été formée, vous allez trouver deux thèses différentes et pas toujours explicitées. Par exemple, M. Kuhn, dans la traduction du Semeur, prend clairement position pour les Galates du Sud. Frédéric Godet, qui était au XIXe siècle une référence en matière d'interprétation des textes, lui prend résolument la position strictement inverse. Et bon, pour nous, il est impossible de trancher, bien sûr, entre les deux. Et je dirais que quelque part, ça ne doit pas nous déstabiliser. Finalement, qu'il écrive aux Galates du Sud, aux Galates du Nord, il écrit dans les deux cas un ensemble d'églises qu'il a formées, puisque lui-même dit dans sa lettre que c'est par sa prédication, notamment au chapitre 4, que c'est par sa prédication que cette église a été formée et qu'à l'occasion de cette prédication, il l'avait très bien reçue. Donc, Paul est le fondateur, je vais peut-être... Voilà en ce qui concerne, en tous les cas, les destinataires de cette église. Alors, à partir de là, pourquoi Paul écrit-il cette lettre ? En fait, l'ensemble du 1er siècle, et même par-delà, est traversé très tôt, à partir des premières années qui suivent les conversions en nombre des premiers chapitres des Actes, par une pensée contradictoire. À savoir que, d'une part, il y a une prédication officielle qui dit que les chrétiens qui viennent du paganisme, donc nous, sommes libres par rapport à la loi de Moïse, c'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés ni de nous faire circoncire, ni de suivre les prescriptions de la loi mosaïque. Alors, le texte de Acte 15 donne une restriction, mais en dehors de cela, donc, l'ensemble des autres textes montre bien qu'il y a une immense liberté en Jésus-Christ pour nous. Mais en même temps, un certain nombre de personnes parcourent les églises. Alors, sont-elles ou ne sont-elles pas en accord avec certains apôtres ? Pour moi, je ne le crois pas. Il me semble que le Concile de Jérusalem montre bien cette unisson qui est rappelée par d'autres textes de l'Écriture. Mais en tous les cas, ces personnes tiennent à peu près la réflexion suivante. En fait, Jésus-Christ a été donné aux Juifs. Il est le Messie des Juifs. Et donc, si vous ne devenez pas juif, c'est-à-dire si vous ne vous faites pas circoncire, si vous ne respectez pas la loi mosaïque, vous ne pouvez pas être de bons chrétiens. Et cette pensée, Paul va la combattre en de nombreuses circonstances. Mais je pense qu'il n'y a aucune autre lettre où cette question-là n'ait autant dominé les débats. Paul veut vraiment faire une démonstration absolue, c'est-à-dire qu'il ne soit pas remis en cause, aux gens à qui il écrit. Et il écrit toute cette lettre dans cette pensée-là. Et donc, dans un premier temps, après une rapide introduction, qui ne prend que les quelques premiers versets, ce qui est très rare, hein, relisez les autres lettres, regardez les introductions, par exemple, la lettre aux Éphésiens, c'est une introduction tout en longueur. Là, l'introduction est très très courte, et dès le verset 6, il dit « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. » Et à partir de là, donc, il va combattre cet autre message. Alors, le problème, c'est que les gens qui passent derrière lui, ils sont passés en plusieurs endroits et ils continueront à passer par la suite, ces gens-là ont à cœur de remettre en cause non seulement l'enseignement de Paul, mais la personne de Paul. Pourquoi remettre en cause la personne de Paul ? C'est tout simple. Est-ce que Paul est qualifié pour dire aux non-juifs « Ne vous faites pas circoncire, vivez dans la liberté du Christ » ? Leur réponse, évidemment, c'est non. Paul ne fait pas partie des 12. Paul est un libéral. Et donc, ils vont essayer, par un certain nombre d'arguments, de montrer qu'il n'est ni apôtre, ni même vraiment un docteur du christianisme. Et c'est ce qu'il va faire, enfin ce qu'il va faire plutôt dans les deux premiers chapitres, ça va être d'expliquer aux gens qu'il est un vrai docteur. Alors ce n'est pas habituel chez Paul, hein. Paul n'aime pas se glorifier, il n'aime pas se mettre en avant. Et il serait intéressant, on n'a pas le temps ici, de montrer à la fois comment il se met en avant sans pour autant vouloir dire « je me mets sur un piédestal ». C'est toujours un exercice difficile, parce que c'est dans la nature de l'homme même de facilement s'enorgueillir des choses, et Paul avait une position qui lui aurait permis de le faire, mais en même temps, il sait bien qu'il ne doit pas tourner les regards vers lui-même, mais le regard vers celui qui est important, c'est-à-dire le Christ. Donc il va développer son argument en trois temps. D'abord, il va dire que le message qu'il annonce, ce n'est pas le sien, c'est celui de Christ. Et non seulement ce n'est pas le sien, mais ce n'est pas celui non plus des apôtres, car ce ne sont pas les apôtres qui lui ont donné ce message. C'est Jésus-Christ lui-même. Donc ça, c'est la fin du chapitre 1. Je veux que vous sachiez, frères, le message que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée d'homme, car je ne l'ai reçu d'aucun homme, personne ne me l'a enseigné, c'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Et il va revenir sur un témoignage qui complète les actes, comment il a rencontré Jésus-Christ. Alors les détails sont intéressants parce qu'effectivement on peut prendre ces passages simplement par rapport à la conversion de Paul, mais à mon avis ils sont, pour reprendre les mots tout à l'heure d'un certain Premier ministre, ils sont un détail par rapport à la pensée finale. La pensée finale, c'est Jésus-Christ lui-même m'a donné le message que je vous ai transmis. Il n'y a pas d'intermédiaire. Première pensée pour répondre à ceux qui disent mais ce n'est pas le bon message qui est délivré. Et en plus, a-t-il l'autorité ? Le deuxième point, c'est le chapitre 2, le début du chapitre 2. Là, il va dire, mais ce message, il a été confirmé par les apôtres. C'est-à-dire, je l'ai reçu de Jésus-Christ, mais je ne suis pas un songeur, je ne suis pas quelqu'un qui vit des rêves et qui vous apporte un message complètement farfelu. Non, j'ai rencontré les apôtres, et ils ont clairement entériné, signé, agréé, prenez les mots que vous voulez pour dire, appuyé avec force, le message que je vous délivre. Et il va démontrer notamment que quand il y est allé, non seulement ils n'ont pas remis en cause le message, mais ils n'ont pas remis en cause Tite. Tite était donc non-juif, grec, et en cela, aurait dû, s'il fallait rentrer dans la circoncision, se faire circoncire. Or, ça ne la lui a pas été demandé. Il a pu rester comme vous et moi. Quand je dis vous et moi, nous qui ne sommes pas circoncis, peut-être par vos racines vous l'avez été, je ne sais pas. Mais comme vous et moi qui sommes d'origine païenne et qui, de ce fait, n'avons pas vécu le rite de la circoncision. Et puis, une fois qu'il a fait cette démonstration que, effectivement, il travaille, comme le texte le dit dans certaines versions, selon la main d'association, c'est-à-dire qu'ils sont pleinement d'accord et qu'en plus, quelque part, ils se partagent le travail, Pierre et les apôtres vers les circoncis, lui vers les non-juifs, une fois qu'il a démontré cela, il va avoir un troisième temps pour dire, toujours dans cette pensée de démonstration, pour dire que quand Pierre s'est retrouvé en situation fautive, il l'a repris avec raison, c'est-à-dire que Pierre a accepté la reprise. Alors qu'est-ce qui s'était passé ? En fait, après cette rencontre, alors je ne l'ai pas dit, mais la rencontre du début du chapitre 2, c'est peut-être ce qui s'est passé dans Acte 15, qu'on appelle le Concile de Jérusalem. Tout le monde se retrouve à Jérusalem, quand je dis tout le monde, les cadres de l'Église se retrouvent à Jérusalem pour discuter qu'est-ce qu'il faut faire pour les païens. Et puis on arrive à la grande conclusion de la fin d'Acte 15. Les païens ne sont pas sous la loi. Ou peut-être c'est une autre rencontre, suivant la position qu'on a prise par rapport à où est la Galatie. On n'obtiendra pas là encore le même commentaire si vous lisez des commentaires en même temps que le texte. Mais dans tous les cas, quelle que soit cette réunion, donc, tout le monde est d'accord, Paul est bien un apôtre de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, quand, après cela, Pierre vient à Antioche, il va avoir deux attitudes différentes selon les moments. Dans un premier temps, il mange avec ceux qui ne sont pas juifs, et il mange, j'allais dire, comme le ferait tout homme libre par rapport à la loi. Mais quand arrive un certain nombre de personnes de l'entourage de Jacques, peut-être des personnes qui propagent déjà cette pensée comme quoi il faut être converti au judaïsme pour être en même temps un bon chrétien, Peut-être simplement des gens qui viennent voir comment ça se vit là, et Pierre se sent un peu repris dans sa conscience, ou je ne sais pas. En tous les cas, quand ces gens-là arrivent, ils changent d'attitude. On le voit très très bien dans le livre des Actes, il était très difficile pour un juif d'aller vers des non-juifs. Mais Pierre lui-même a dû être convaincu par un songe survenu trois fois avec une force, puisqu'on l'invitait dans ce songe à manger des nourritures considérées comme souillées par un juif. Il a fallu ces trois songes pour qu'il accepte ensuite, une fois qu'il avait compris que Dieu déclare pur tous les hommes, qu'il accepte d'aller rencontrer des Romains. Donc c'était très très difficile pour un juif de traiter comme des frères des non-juifs. Et donc, quand arrivent ces gens de Jérusalem, ils recommencent à se conduire en bons juifs, c'est-à-dire dans une doctrine de séparation d'avec les non-juifs. Et là, Paul va l'interpeller publiquement en lui disant « Mais comment ça se fait que tu aies cette attitude hypocrite ?» Des mots difficiles, hein, tu obliges les gens à judaïser, dit le texte. Bon, mais en tous les cas, c'est ça, c'est une attitude hypocrite. Comment ça se fait que tu as une attitude, tu manges avec les non-juifs dans un temps, puis dans un deuxième temps, tu manges plus simplement parce qu'il y a des personnes qui sont là pour observer ce que tu fais. C'est pas bien. Si Paul a le pouvoir de reprendre Pierre, vous savez qui est Pierre dans l'histoire de l'Église, c'est que Paul a une autorité équivalente à celle de Pierre. Il n'est pas question de savoir s'il est plus grand ou plus petit que Pierre. Mais ça veut dire que son autorité est de la même nature, apostolique si vous voulez. Il a le pouvoir de reprendre un apôtre en public et d'obtenir que cet apôtre fasse amende honorable, reparte sur le chemin précédent. Donc c'est ça le troisième argument. Paul a une autorité apostolique. Trois arguments pour dire à ceux qui l'écoutent, eh bien, effectivement, vous pouvez faire confiance au message que je vous délivre. Et ensuite, il va, dans un deuxième temps, démontrer dans cette lettre aux Galates que la loi ne sauve pas. Alors, rentrer dans les détails de l'argumentation serait un petit peu long, mais simplement, il va leur montrer que la loi était pour un temps, qu'elle était comme un enseignant destiné à amener les gens vers le Christ, et qu'une fois qu'ils seraient au Christ, ils seraient libres. Donc, il va le montrer texte en main, avec des arguments qui sont parfois purement théologiques, par exemple par rapport à la foi d'Abraham, rappelant que Abraham a vécu avant la loi, plus de 400 ans avant la loi, et que cette loi ne s'appliquait pas à lui, pourtant par la foi, Dieu le déclarait juste. Et ensuite, prenant un deuxième type d'argument qui est peut-être plus imagé, qui étaient les deux enfants d'Abraham, montrant qu'il y en a un qui était né de l'esclave, et donc qui était forcément esclave, et il dit ça c'est la situation du judaïsme. Bien que le juif vienne d'Isaac, mais le judaïsme dans sa pensée n'est pas libre. Il est enchaîné à un ensemble de doctrines dont il n'arrive pas à sortir et qui finissent par l'empêcher de voir Christ, alors qu'au contraire, le rôle était d'amener à Christ. Et puis Isaac, lui au contraire, il est né de la femme libre. Et donc l'image est là pour montrer que puisque Isaac est né de la femme libre, et donc il est l'enfant, il est l'héritier, nous aussi, nous sommes nés de Christ, donc nous sommes libres. Et nous n'allons pas nous mettre esclaves de la loi. Il va donc leur démontrer que la loi ne mène pas au salut. Et ça va prendre tout le chapitre 3, avec, à la fin de la démonstration, au chapitre 4, une autre démonstration. Vous ne pouvez pas vivre à la fois la loi et la foi. Vous devez soit être sous la loi, mais la loi ne vous conduira pas à Christ ni au salut, soit être de la foi, né de Christ, auquel cas vous êtes libre. Et c'est là qu'arrivent les versets que je vous lisais tout à l'heure, car ceux qui sont unis à Jésus-Christ, pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, donc d'être sous la loi ou hors de la loi, c'est d'avoir la foi, ce qui importe. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. C'est la dernière partie du texte. Dans cette dernière partie du texte, Paul va, je dirais quelque part, prévenir un risque. Si nous sommes libres, faisons n'importe quoi. Et si nous faisons n'importe quoi, alors les Juifs qui nous regardent, ou le judaïsme qui nous regarde, dira « Mais voyez comment ils se comportent, si au moins ils avaient la loi. » Il va essayer de démontrer que, conduit par l'Esprit, nous allons vivre la loi sans que la loi nous soit imposée. Nous n'allons pas vivre la loi parce que la loi dit, mais parce que notre Père dit. Je vous rappelle que c'est quand même dans ce texte de la lettre aux Galates que se trouve cette belle affirmation que nous pouvons appeler Dieu, Père, selon la traduction qu'on a généralement dans nos versions, Abba, Père. Mais si on reprend le sens premier, hein, Abba, dans l'époque, c'était la manière dont on disait papa. Aujourd'hui, on dit pas père, on dit papa. À l'époque, on disait Abba. Donc je pense que si nos versions disaient papa, on comprendrait bien mieux. Et je suis toujours émerveillé de la manière dont certains, notamment nos amis africains, comprennent ce texte et le vivent. Et dans leurs prières, disent papa. Mais c'est ça, nous pouvons dire papa à notre Dieu. Alors bien sûr, le père a peut-être une figure qui aujourd'hui dans notre société fait mal parce que nous n'avons pas des pères parfaits, mais lui est le père parfait, celui qui aurait dû inspirer notre papa s'il ne l'était pas, s'il n'était pas à la hauteur de la situation. Donc, nous sommes libres, mais comment se comportent des gens libres? À quel fruit reconnaît-on des gens libres? Et vous vous rappelez que c'est aussi dans cette lettre qu'il va donner les fruits de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit, ce n'est pas une lettre normative, ce n'est pas « faites ceci ». C'est « si vous aimez le Seigneur, si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous vivrez ainsi et vous produirez ces fruits ». Vous n'allez pas noter des points, vous allez au contraire chercher la face de Dieu pour que vos vies ressemblent de plus en plus à celle de Jésus-Christ. Alors je dirais que la lettre aux Galates, quelque part, pourrait sembler hors du temps, parce que la plupart d'entre nous ne sommes pas confrontés à cette problématique judaïque. Peut-être sommes-nous confrontés au légalisme, parce que le légalisme, ça a gêné l'Église de toute époque. Et ça peut-être nous gêner dans notre vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon chrétien? Ça, c'est du légalisme, si on met toute une liste derrière. La bonne question, c'est à quoi voit-on si je suis un bon chrétien? Pas si les autres le sont, c'est à la limite pas mon problème, mais si je suis. Quel signe ma vie doit-elle produire si je suis un bon chrétien? Ce n'est pas une invitation à porter un masque, c'est une invitation à vivre notre foi et que notre foi transparaisse, transpire des pores de notre peau, c'est-à-dire à notre insu. Donc, ça peut être une première raison d'actualité de la lettre. Mais une deuxième raison, me semble-t-il, d'actualité de la lettre, c'est que les chrétiens sont toujours basculés entre deux extrêmes. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas légalistes, ils ont tendance à être libertaires. L'équilibre est toujours difficile à trouver. Être libre, ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est traduire dans nos actes que nous vivons avec le Seigneur. Et on l'a vu, hein, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Donc, il faut trouver un équilibre. Et dans cet équilibre, il faut examiner toute chose, pour paraphraser un autre texte de Paul. Donc, je pense qu'il faut lire cette lettre dans cet esprit. Bien sûr, il y a le contexte des gens à qui il écrivent, mais par-delà, une fois qu'on a compris ce contexte, on peut plus facilement dégager ce que Paul voudrait nous dire pour nous aujourd'hui sur comment vivre notre liberté en Christ, comment éviter de sombrer dans le légalisme, comment savoir si je suis un figuier stérile ou un figuier prospère, comment me remettre en cause à partir des domaines dans lesquels ma vie ne produit pas les fruits de l'esprit, etc., etc. Alors, en conclusion, simplement, je voudrais vous inviter, vous encourager à relire cette lettre aux Galates. Une fois compris un petit peu les problématiques des destinataires, on y reçoit beaucoup plus de choses. En tous les cas, c'est mon cas, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous invite à le faire sans trop tarder, de manière à ce que, si vous le faites, vous ayez encore les mots de cette étude présents dans votre esprit.